Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons et nous discutons des spécialités britanniques avec mes amis et des professionnels de la cuisine. Autour d'un plat, un dessert, un gâteau, nous plongeons notre fourchette dans l'histoire et la culture de mon pays d'origine pour découvrir et redécouvrir la cuisine de Sa Majesté. Aujourd'hui, je suis avec Rosie, une fromagère anglaise et consultante culinaire qui habite au Crozet, près de Rouen, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Professeure à la célèbre École de la cuisine Cordon Bleu, elle donne des cours en ligne sur le fromage et la fermentation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit hautement symbolique en France, mais aussi en Grande-Bretagne, le fromage. Comme disait le gastronome Briard Savarin, un dessert sans fromage est une belle à qui manque un œil. Avec la différence qu'en Grande-Bretagne, nous mangeons le fromage après le dessert. Nous allons partir au sud-ouest de l'Angleterre pour parler d'un fromage que vous connaissez certainement de nom parce que c'est le fromage le plus vendu au monde. Mais vous allez découvrir son histoire et le secret de sa fabrication avec Rosie. Il s'agit évidemment du cheddar. So, say cheese and let's get started. Bon, Rosie, moi, ce que j'adore dans ce que je fais, c'est la sérendipité, le moyen que je rencontre les personnes que j'interviewe. Et là, c'est par une dame en Australie qu'on a fait connaissance. Parce qu'il y a un an, quand j'étais en train de me renseigner pour faire un cours en ligne avec l'école Le Cordon Bleu, j'ai rencontré Robin qui m'a parlé de toi, parce que j'avais parlé de mon podcast. Elle m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Rosie, qui habite en France et qui fait du fromage. Et ben voilà, un an après, on est là toutes les deux. Donc bienvenue, je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi.
Moi aussi, merci bien.
Alors Rosie, pour commencer, est-ce que tu peux raconter un peu comment on devient fromagère et surtout en France, c'est quand même le pays de fromage. Donc une fromagère anglaise en France, ça doit être assez rare.
Peut-être, oui, c'est possible. Donc, en fait, à la base, je suis chef de cuisine et j'ai travaillé dans Somerset, en Angleterre. Et en fait, ma sœur, elle m'avait acheté une pièce de fromage. Et en fait, la dame qui a fabriqué le fromage, elle avait habité juste 5 km de chez moi. Donc, j'ai écrit une petite lettre. Et j'ai demandé si je peux donner un coup de main pour faire le fromage chez elle. Donc après, elle m'avait dit oui, bien sûr, et j'ai passé 2 ans avec elle pour faire le fromage.
Et cette dame, il paraît, c'est quelqu'un, enfin c'était quelqu'un, parce que je crois qu'elle n'est plus en vie, que c'est vraiment quelqu'un de très important pour l'industrie artisanale de fromage en Angleterre.
Tout à fait, c'était une dame qui s'appelle Mary Holbrook. Et elle a fait beaucoup, beaucoup de travail avec Neil's Yard Dairy.
Ah oui, le fameux Neil's Yard qui importe aussi beaucoup de fromage en France.
Exactement. Et en fait, nous avons fabriqué le fromage et c'était eux qui ont vendu le fromage.
D'accord.
Donc, c'est tous lié grâce à ça, en fait. Et j'ai décidé à faire une petite formation au sujet de l'affinage de fromage en France. Donc, j'ai passé 2 semaines en France, à peu près 15 kilomètres de chez moi maintenant. Et après ça, c'était eux qui ont demandé si je voudrais travailler chez eux pour faire l'affinage de fromage.
Ah, d'accord. Donc, les Français qui ont demandé à une Anglaise de venir affiner leur fromage.
Oui, ouais, plus ou moins, oui.
Et donc là, c'est là où tu es maintenant, au Crozet, près de Rouen, c'est ça?
C'est ça, oui, tout à fait. Et en fait, c'était un contrat pour 6 mois. Et c'était pendant ces 6 mois que j'ai reconnecté avec mon mari. Donc maintenant, c'est plus de 5 ans et demi que j'habitais en France avec lui.
Ah oui, d'accord. Parce que c'est vrai, je te suis sur Instagram. Alors, ça fait très romantique te voir avec tes chiens, les chèvres, les vaches. J'ai même vu ton mariage parce que c'est assez récent. Mais j'imagine quand même, c'est beaucoup de travail. C'est pas aussi romantique que ça a l'air.
Ça dépend. Mais en fait, notre premier tête-à-tête dîner ou notre date, c'était pour faire la traite avec la vache.
Oh, c'est quelle image, ça, c'est très mignon.
Voilà.
D'accord. Et donc maintenant, ça fait 5 ans que tu es en France et je crois que tu fais plutôt des fromages de chèvre aujourd'hui.
C'est ça, oui. J'ai travaillé avec les amis qui a une ferme. En fait, eux, ils ont un troupeau de vaches et un troupeau de chèvres. Et moi, j'ai fait la traite avec les chèvres. C'est presque la fin de la saison pour eux. Et pendant COVID, ils ont beaucoup, beaucoup de lait. Donc, j'ai dit que peut-être je peux faire une tome de chèvres avec du lait. Et j'ai créé une tome pour eux.
Ah oui, et tu
Oui.
lui as donné un nom?
Ben, c'est tome de chèvres.
Si,
C'est
voilà.
très français, ça, oui.
Ok. Mais c'est incroyable ça qu'une Anglaise vient faire un tome de chèvre en France pour des gens qui l'ont jamais fait. Mais en fait, c'est vrai qu'on pense toujours à la France pour ses fromages.
Oui.
Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a entre 1200 et 1500. Mais la Grande-Bretagne a quand même une histoire aussi ancienne de fromage, même si on n'y pense pas. Peut-être un peu
Oui.
moins, je crois qu'il y en a 700. Mais je sais que toi, avec l'Institut du Cordon Bleu, tu as fait une thèse sur les différences entre nos fromages en France et en Grande-Bretagne. Tu peux m'en dire quelques mots, les grandes lignes, quelles sont les différences?
Ben, en fait, avec la France, c'est vraiment dans le cœur de le pays. C'est dans le caractère. Et en fait, il y a beaucoup de choses. Ils sont très fiers de la nation, mais aussi ils sont très fiers de toutes les choses qu'ils ont produites autour de chez eux. Donc, c'est. On mange les choses de bonne qualité, bien sûr. Donc, je crois qu'il n'y a aucune question pourquoi on mange les choses qui sont mauvaises. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il reste une bonne tradition avec le fromage en France. Et aussi, il y a beaucoup plus de vaches et de chèvres en France. Donc, si vous avez beaucoup de lait, qu'est-ce que vous
Oui,
faites? Vous
effectivement.
faites le
Et
fromage.
c'est vrai ce que tu dis, c'est la France a su être fière et protéger aussi ses terroirs. Enfin, on parle beaucoup de terroirs en France,
Exact, oui.
alors que je crois qu'on a fait l'opposé en Angleterre. On va y venir quand on parle un peu plus dans l'histoire, mais c'est vrai que la révolution industrielle et d'autres choses ont fait que on a vraiment perdu le contact avec nos terres et avec ça, toute la fabrication artisanale de beaucoup de choses qui est partie avec. Heureusement, ça commence à revenir maintenant. Mais je crois que ça, c'est une des grandes différences entre la France et la Grande-Bretagne.
Je pense, dans le même sens, je crois.
Et pourtant, on peut voir les similarités aussi entre nos terres, par exemple avec le nord-ouest de la France et l'ouest de la
Oui.
Grande-Bretagne. On a quand même un terroir, enfin la terre est assez similaire. Et peut-être là, on va trouver des fromages un peu similaires aussi.
Ah ben, c'est sûr, oui. Et en fait, avec Mary Holbrook, nous avons fait un fromage qui était assez similaire d'une Valençay. C'est un fromage qui est lactique et on utilise le charbon pour faire le cru de le fromage. Donc, c'était similaire en termes de texture et de goût, mais bien sûr, avec le même lait, c'est pas possible à faire le même fromage.
Et alors, pour choquer les Français, on a du tel bon fromage maintenant en Angleterre que je crois qu'en 2017, il y a un fromage de Cornouailles, de chez moi, le Cornish Cairn, qui a gagné le
Oui.
prix du meilleur fromage au monde, au World Cheese Awards. Et donc, pour ça, c'est avec quand même 300 fromages, non, 3 000 fromages, pardon, de 300 pays différents. Donc, c'est pas mince à faire, ça. C'est qu'on a vraiment fait des grands progrès.
Ah bah c'est sûr, oui, c'est sûr.
Évidemment, l'histoire du fromage, ça existe depuis l'Antiquité. Donc, il y avait quand même, pendant des siècles, toute une histoire de fabrication artisanale, souvent les femmes, hein, c'était les dairymaids qui faisaient les fromages.
Oui, c'était ça, c'était le travail pour la femme, oui.
Et jusqu'à la révolution industrielle, où on a tellement, déjà, on a ramené tout le monde des fermes dans les grandes villes. Ensuite, on a industrialisé le process du fromage jusqu'à 1913 où 80% du fromage était importé en Angleterre.
Oui.
Et pour enfin vraiment tuer l'industrie, dans les années 30, le gouvernement a formé un organisme qui s'appelait le Milk Marketing Board, le conseil de marketing laitier, où ils payaient les agriculteurs pour récupérer leur lait afin de réguler et contrôler l'approvisionnement du lait pour tout le monde. Et je sais pas toi, mais nous, on avait encore les petites bouteilles de lait à l'école quand j'étais petite.
Ah oui, nous avons le lait livré à la maison quand j'étais petit.
Ah oui, c'est vrai, le milkman.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, je ne me souvenais plus si on avait le lait à l'école
Bah,
ou
je pense que je suis un
pas.
peu plus âgée que toi. Donc peut-être ils ont arrêté, je crois, dans les années 80 ou années 70 peut-être.
OK.
Mais du coup, avec tout ce lait qui était collecté, bah, il n'y avait plus de fromage et plus de lait pour le fromage, sauf une seule fromage, c'était le Government Cheddar. Le cheddar,
Oui.
un fromage facile à produire, facile à couper en petits morceaux, facile à distribuer. Et voilà, donc ça a à peu près tué notre industrie au fromage. Mais maintenant, il y a une vraie renaissance et la fabrication artisanale revient à galop. Et donc, toi, tu participes à ça et c'est absolument génial.
Oui, c'était, ouais, c'était, c'est un super changement et je suis très fière de le travail en Angleterre en ce moment. Et je connais beaucoup de monde qui travaille toujours dans le milieu. Et c'est génial, quoi. C'est génial.
Ouais. Et alors, on va parler justement d'un fromage, c'est peut-être le fromage le plus connu au monde, c'est le cheddar.
Oui.
Alors, c'est un fromage qu'on trouve sur tous les rayons des supermarchés aux États-Unis et même en France. Et il y a beaucoup de formes différentes, mais un vrai cheddar, il n'y a rien de mieux au monde. Alors, c'est quoi comme fromage et comment tu le décris et comment on le fabrique?
Ben, c'est un gros fromage. C'est à peu près 25 kilos en taille.
Ah ouais.
Donc, on a besoin beaucoup de lait pour faire ce fromage. Donc, on chauffe le lait. Et après, on ajoute la levure et la pression. Et on laisse le lait. Et après, quand on commence à faire le caille, on commence à couper le caille. Et ça, c'est pour séparer le caille et le petit lait.
Et c'est ça qu'ils appellent le cheddaring. C'est un verbe qui vient de...
Ben, en fait, on commence à couper on commence à couper le caille et
D'accord.
on forme la grosse plaquette de caille. Et après, on fait une tour de plaquette. Parce qu'on veut qu'il y ait un changement avec l'acidification. Et on laisse le gros tour pour à peu près 15 à 20 minutes. Et après, on fait une procédure qui s'appelle milling. Donc, on brouille le caille pour faire la petite plaquette. C'est à peu près la taille d'une une doigt.
D'accord.
Et après, on ajoute du sel. Et en fait, ils ont fait une décision que c'était mieux pour ajouter du sel à ce stage. Parce que si on ajoute le sel trop tard, ça prend beaucoup de temps pour le sel à être distribué dans le fromage. Et à cause de ça, c'est possible que le fromage, ça reste pas bien.
Ah, d'accord.
Et
OK.
en fait, on a besoin de le sel pour jouer avec le goût, mais aussi c'est quelque chose qui arrête le mauvais bactéries. C'est hyper important pour utiliser du sel dans la production de fromage. Donc après, on a broyé tout le caille, on met le caille dans les moules pour faire le gros tome.
D'accord. Et pour, est-ce que tu sais, pour un, tu dis un meule de 25, un tome de 25 kilos, c'est ça? Il faut combien de litres de lait?
Normalement, on dit 10 litres pour 1 kilo.
Ah ouais.
Donc, ça va être 250 litres.
Waouh, c'est beaucoup de lait, hein?
Oui.
Mais je sais qu'autrefois, c'était un moyen aussi de conserver le lait, parce que quand on n'avait pas de frigo, mais le lait, il allait tourner. Et
C'est
c'est comme
ça.
ça, le fromage, a commencé à exister. C'était un moyen de transporter et conserver le fromage, surtout le cheddar, parce que c'est plus dur, c'est plus facile, je crois, à transporter les fromages durs que les fromages, frais de chèvre.
Oui, bah avec lait cru aussi, il y a une très court shelf life. Donc, on a besoin d'une façon pour conserver. Et peut-être ça, c'est une autre raison qu'il y a beaucoup de fromage en France, parce que le Français boit très peu de lait cru ou lait
C'est vrai,
frais.
c'est vrai.
Donc, c'est pas dans l'histoire de le pays pour consommer du lait comme ça.
Non, ils sont beaucoup plus yaourts. Quand on voit
Oui.
les rayons de yaourts en France et le fromage évidemment, mais pas le lait. T'as raison. Donc une fois tu les as mis dans les moules,
Oui.
j'imagine la prochaine étape ça va être l'affinage.
Bah, en fait, on presse le fromage parce qu'on veut que tout le petit lait, ça sorte le fromage. Et puis après, on met dans un tissu. On fait le croûte avec un tissu.
Ah, ok.
Et après, ça commence l'affinage.
Et la croûte, il se forme comment avec le tissu?
Bah, c'est avec l'air et aussi avec. Il y a les gens qui utilisent le beurre. Et en fait, quand on coupe une cheddar, le croûte, ça semble que c'est pas quelque chose de naturel, mais c'est bien sûr, c'est naturel. Mais en fait, c'est juste. L'exposure entre le fromage et le tissu et l'air.
Ah oui, donc c'est tout à fait naturel,
Oui, tout à fait.
ok.
Mais ça existe, il y a beaucoup de fromages, ouais, beaucoup de cheddar qu'on trouve avec le cire autour.
Ah oui, c'est vrai, c'est ce qu'on trouve en France en ce moment, beaucoup
Oui.
en forme de cœur
Voilà.
avec le cire. Et ça, c'est parce que ça le conserve, c'est un moyen de le conserver et que c'est joli ou il y a une autre raison?
C'est un autre moyen de conservation, oui, bien sûr.
Et donc, on peut avoir comme un comté, un jeune ou un fromage plus affiné. C'est comment pour toi le cheddar parfait? Quel est ton style de cheddar que tu affectionnes particulièrement?
Ah, ça, c'est une bonne question. Peut-être c'est un peu controversial, mais j'aime beaucoup quand il y a un petit point de bleu qui arrive dans la pâte.
Ah ouais.
Oui, et en fait, normalement, le gens veut pas ça parce que c'est peut-être un signe que c'est un peu mauvais, mais je trouve il y a beaucoup, beaucoup de différents goûts avec le petit point de bleu.
Ben, de toute façon, c'est le fromage, c'est plein de microbactéries. Et puis, c'est comme le Stilton, c'est comme
C'est ça.
comment ça s'appelle, le fromage qu'on a en France, le bleu,
Roquefort?
le Roquefort, voilà. Et c'est ça qui donne le goût. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de voir du bleu dans un cheddar.
Oui.
Et les consistances, parce que c'est vrai, quand on l'achète en supermarché, c'est un peu caoutchouc.
Oui.
Mais un bon cheddar artisanal, il est à la fois ferme
Oui.
et dense.
Pas trop crayeuse non plus. On veut
Ouais.
qu'il y ait des textures quand même. Mais ça change avec l'âge aussi. Ça va être plus dur et plus anxieux quand c'est moins vieux, quand c'est plus jeune, quoi.
Ouais.
Et après, avec le peu de humidité, ça commence à être un peu plus fiable, fragile.
Ah, friable peut-être, ou fragile.
Friable,
Oui, tout
oui.
à fait. Ouais. Et puis à ce côté, au niveau goût, comment on pourrait décrire le goût pour quelqu'un qui n'a jamais mangé? C'est complexe, hein? C'est difficile.
Ah oui, c'est très complexe. Bah, c'est sucré, un peu torréfié, mais avec un peu de choses animales aussi. Et aussi avec une touche de pâturage. Un peu comme l'herbe, quoi. Mais pas dans le mauvais sens.
Oui. Non, on sent le côté végétal du fromage. Et puis il y a aussi un côté un peu noisetté, non?
Oui.
Là, ça me met l'eau à la bouche. J'ai juste envie à ce moment-là d'être dans un pub en train de manger un bon Plowman's Lunch. ce qui est quand même un plat très connu en Angleterre. C'est
Oui.
une planche en général avec un grand morceau de cheddar. Et puis les pickles ou les chutneys qui vont avec. Et une bonne bière ou un verre de vin. Et un bon tranche de pain. Oh, c'est trop bon ça.
Tout à fait.
Donc, autrefois, bah, il y avait plus de 400 fromagers à Cheddar. Alors, il faut expliquer que Cheddar, c'est un petit village dans le Somerset, peut-être pas très loin d'où tu habitais avant.
Oui, c'était pas trop loin. C'était 15 km.
Ah oui, vraiment tout près. Bah, moi, j'ai un frère qui habite à Cheddar même.
Ah
Et
oui.
donc, je lui ai envoyé pour voir ce qui est dans le village au niveau de fromager. Et en fait, autrefois, il y avait 400, mais aujourd'hui, il existe un seul vrai fabricant de cheddar qui s'appelle le Cheddar Gorge Cheese Company. Et la particularité, c'est ils ont d'autres fromages aussi, mais ils affinent quand même une partie de leur fromage dans les fameuses caves des gorges de cheddar qui ont apparemment les conditions idéales pour l'affinage, comme Roquefort.
Oui.
Alors, c'est un fromage qui est très ancien. On trouve des archives qui datent de 1100. Et apparemment, en 1170, il y a le roi Henri II en Angleterre qui a déclaré que c'était le meilleur fromage en Angleterre et il aurait acheté 4,6 tonnes. Et puis, pendant la règne de Charles Ier en 17e siècle, tout le fromage de cheddar était destiné à la cour royale, tellement que c'était estimé ce fromage. Et un autre petit détail, c'est que pour le mariage de Victoria Albert en 1840, ils ont commandé un énorme de fromage, un tome qui faisait 2,7 mètres de diamètre et 567 kilos.
Wow.
Mais ça me fait penser aujourd'hui, il y a un drôle de tradition d'Angleterre maintenant que plutôt d'avoir un gâteau de mariage
Oui.
sucré. La grande mode maintenant, c'est avoir des gâteaux en fromage.
Oui.
T'as déjà vu ça où ils montent les tomes l'un sur l'autre?
Oui, c'est impressionnant ça. Oui, j'ai vu ça beaucoup et je pense que ça marche très bien.
Alors, donc notre petit cheddar qui allait très très bien dans le Somerset jusqu'en 1856. Oui, un certain Joseph Harding. Alors, c'était typique de l'époque où tu avais des fermiers ou des aristocrates qui étaient un peu scientifiques en même temps. Et alors, il a publié, travaillé et publié une nouvelle méthode de fabrication qui était beaucoup plus exacte et vraiment avec le mot sur l'hygiène et la rigueur pour créer une version qui est devenue industrialisée du cheddar. Et le problème, c'est qu'il a donné cette recette au monde entier. Et du coup, tout le monde s'est mis à faire du cheddar aux États-Unis, en Australie. On n'avait absolument pas cette notion, comme en France, d'appellation d'origine contrôlée. Et je pense que c'est ça que tu as vu dans ton thèse aussi, c'est que la France, elle est vraiment restée près de ses racines, si je peux dire ça, près de
Oui,
ses terres,
oui.
alors que l'Angleterre, on a sous-estimé la valeur de tout ce qu'on avait chez nous.
Je pense que oui. Je pense que oui. Et on était prêts pour partager des idées, quoi. Et ça, c'est pas une chose négative, quand même. Je pense que c'est important pour partager. Mais c'est vrai, il y avait un moment quand c'était pas tout à fait. Ils ont pas réfléchi, peut-être. Que pour protéger et garder les secrets de la paix.
Oui, parce que le danger, c'est que un cheddar, en fait, finalement, ça peut être n'importe quoi.
Oui.
Parce qu'à l'origine, pour avoir le nom cheddar, il fallait que le lait des vaches était récolté en moins de 30 miles du cathédrale de Wells.
Oui.
Et comme voilà, rien n'a été fait pour le protéger, ben maintenant, c'est fait dans le monde entier. Et on a essayé de revenir un peu en arrière, mais c'était beaucoup trop tard en 1993, avec l'Europe, quand on n'était pas encore Brexité. Il y a un groupement de fermiers, de fromagers de Somerset, Dorset, le Devon et les Cornouailles, donc vraiment tout le sud-ouest, qui ont réussi à avoir un label pour un fromage qu'ils appellent le West Country Farmhouse Cheese. Et ils devraient utiliser les méthodes traditionnelles. Donc ça, c'est une appellation maintenant qui est contrôlée, mais qui maintenant, quand il ne fait plus partie de l'Europe, bah, ça n'a plus de sens. C'est peut-être contrôlé en Angleterre, mais toi, Rosie, tu peux faire ces fromages en France sans problème.
Oui.
Et toi, alors, qu'est-ce qui t'empêcherait de faire du cheddar, Rouen?
Je suis pas sûre que je peux transporter le moule de 25 kilos.
Déjà une bonne raison.
Ça, c'est vraiment physique pour faire le fromage comme ça.
Ah
Et
ouais.
c'est pas qu'un fromage que on fait à la fois, quoi.
Ouais. D'accord. Donc
Donc,
il faut avoir une
c'est
grosse, il faut avoir beaucoup de lait, il faut avoir une grosse structure aussi, et
Oui,
puis
beaucoup de muscles.
beaucoup de muscles, les grands bras pour faire ça. D'accord.
Oui,
Ok.
c'est sûr.
Donc tu vas continuer avec tes fromages de chèvre et le tome, si j'ai bien compris, elle était un grand succès.
Oui, c'était très bien. Maintenant, en fait, les chèvres, elles ont à la fin de la lactation. Je pense qu'on va finir à faire la traite ce samedi. Donc, elle va prendre un petit moment pour reposer avant elle fait la mise barre en la fin de février, début mars. Mais après ça, je vais commencer à être beaucoup plus dans la laiterie pour faire le fromage. Et on va peut-être essayer quelques autres différentes recettes et puis vérifier qu'est-ce qu'on peut faire avec le tome aussi.
Et tes fromages, on les trouve où? Tu les vends que localement ou
Oui, c'est localement. On fait 4 marchés par semaine.
Ah, ok.
Oui.
Bon, je vais te demander les noms des marchés après, comme ça je les mettrai sur mon site. Alors, le cheddar, c'est vrai que alors c'est un fromage qui s'adapte à beaucoup beaucoup de recettes. Et on avait prévu de parler de ça, mais comme le temps court très vite, je propose de t'inviter de nouveau, Rosie, pour faire un deuxième épisode avec une super recette avec le cheddar. Et avant ça, je propose qu'on passe maintenant à ton faux pas, un moment peut-être dans ta vie,
Ah
soit
oui.
de chef ou de fromagère, que voilà, un moment un peu difficile où tu étais un peu gênée.
Oui, donc c'était pendant mon première semaine en France. J'avais presque aucun mot, j'étais pas courant non plus. C'était assez compliqué pour parler et pour communiquer. Et j'étais dans une chambre froide. Et en fait, j'ai balancé 10 litres de
Oh non.
crème par terre. Oui. Mais en fait, avec ça, c'était pas nécessaire à parler parce que tout le monde, ils ont compris qu'est-ce que j'ai fait. Que c'était une grosse bêtise. J'étais
J'imagine.
hyper stressée. Dans le
Ouais.
foie aussi, avec la crème qui colle, c'était impressionnant. Nous avons une super expression anglaise, when we say crying over spilt milk.
Ah oui.
J'étais pas sûre qu'est-ce que j'ai fait avec spilt cream. Qu'est-ce que j'ai fait?
Alors, comment pourrait-on dire ça? On pleure pas une fois qu'on a renversé le lait.
Voilà, exact. Oui.
Voilà. Et là, dans ton cas, c'est une fois qu'on a renversé la crème.
Et c'est vrai que quand c'est un produit comme ça qui tâche, qui reste, c'est pas comme une tasse de lait, quoi. C'est brillant, c'est gras, c'était une catastrophe.
Ben j'imagine, et puis ça, 10 litres, ça vaut un petit paquet quand même, et ils t'ont quand même gardé?
C'était pas possible, c'était juste par
Non, mais
terre.
par le crème, toi,
Ah
ils ont
oui,
décidé de
moi,
te garder.
oui. J'étais pas balancée avec du crème non plus, non.
Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous pourrez trouver les fromages de Rosie sur les marchés de Saint-Martin-d'Estreux, Roanne et Charlieu dans le département 42 sur le stand de GAEC de la Roanne. J'espère que cet épisode vous a plu et sachez que vous pouvez trouver tous les épisodes sur Apple, Google, Spotify et Deezer. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode. So cheers, cheerio, and see you soon.